J'ai le privilège, chers amis, de vous présenter notre invité pour les deux semaines à venir. Comme vous savez, nous avons nos conférences chaque soir, sauf vendredi soir, donc le dimanche à 18h et dans la semaine, sauf vendredi soir à 19h. Notre invité, il s'appelle Wilfred Pavela. Certains d'entre vous, vous le connaissez depuis la Martinique. Certains d'entre vous, vous avez vu son nom, ses vidéos, ses prédications depuis quelques années sur Internet. Mais j'aimerais souligner combien notre invité a fait son parcours avec le Seigneur. Il aura le temps de vous en parler. Il n'a pas grandi dans l'Église. Il a connu l'Évangile il n'y a que quelques années. Je l'ai rencontré en 2005 environ. Il a fait son parcours. Il est allé se former dans la parole, dans la compréhension de la parole, dans la prédication de la parole. Il a été quelqu'un qui présente déjà des atouts de la part du Seigneur. Aujourd'hui, il vient de terminer sa licence en théologie. Il vient de fêter cela à Trinidad, où il y a eu une cérémonie de graduation. Et aujourd'hui, il est avec nous. Il est marié, il a 3 enfants, 3 filles. Son épouse s'appelle Michelle. Et les filles sont Marcia, Livia et Isa. Isa, 2e, et Livia, 3e. Donc, sa famille nous a prêté notre frère. Et je vous invite à prendre bien soin de lui pendant ces 2 semaines. Il reste en prière avec nous pour ces 2 semaines. Et j'espère que chacun reconnaîtra ce que Dieu fera dans son cœur à travers la parole qui sera donnée. Sans plus tarder, chers amis, j'aimerais céder la parole à notre invité Wilfred Pavela en lui disant bienvenue dans cette église et bienvenue dans la maison du Seigneur.
Bonjour, chers bien-aimés. Nous avons 2 semaines à passer ensemble. Et durant ces 2 semaines, je ne vais pas vous étaler tout ce que nous verrons, juste que les 2 semaines sont disséquées en 3 parties. Dans la première partie, mon objectif est de vous présenter la parole de Dieu, présenter Jésus. Ce matin est une exception, c'est mon premier samedi avec vous, donc ce matin je vais prêcher l'évangile. Mais à partir de demain, la chose aura un ordre. Premièrement, vous présentez l'évangile et vous présentez Jésus. Deuxièmement, vous permettre de comprendre à quel point vous avez besoin de Jésus. Et troisièmement, comment Jésus peut changer une vie lorsqu'on lui permet d'intervenir dans cette vie. Ces 2 semaines seront disséquées en 3 parties. Donc, si vous ratez une partie, ce sera un petit peu problématique pour vous de comprendre un petit peu le reste. D'accord ? Sommes-nous en phase ? Sommes-nous en phase ? Chers amis, je ne vous sens pas encore. Sommes-nous en phase ? Ok. Donc, le titre du sermon de ce matin est « Jésus t'offre une nouvelle perspective ». Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, tu as un voisin sur ta gauche ou encore sur ta droite qui dort. Donne-lui un petit coup et dis-lui « Jésus t'offre une nouvelle perspective ». Il faut qu'il se réveille et qu'il comprenne que Jésus a quelque chose à lui offrir ce matin. Parce que peut-être qu'il a pris le train, le bus, sa voiture ce matin en se disant « Oh, pff, ce sera comme d'habitude. » Avec un gars qui vient de je ne sais où, mais ce sera comme d'habitude. Ben, ce matin, dites-lui, c'est différent parce que Jésus t'offre quelque chose ce matin. C'est une nouvelle perspective. Amen. Amen. Donc le texte de base, nous l'avons vu ensemble. Non, il n'a pas été lu. Il a été lu ? Non. Oh, vous voyez, d'une culture à l'autre, ça change. Donc il n'a pas été lu, mais nous le lirons ensemble juste avant que je prie. Le texte de base se trouve dans Luc chapitre 13. Versets 10 à 17. En général, lorsque je vous donne un texte, vous pouvez mettre quelque chose dans la Bible à ce niveau-là. Je ne suis pas le genre de prédicateur qui fait des marathons. On n'étudie pas toute la Bible en 20 minutes. Mais ça peut arriver que je me réfère à d'autres textes. Donc je vais les citer, vous les verrez vous-même à la maison, ou vous pouvez les lire dans l'assemblée pendant que je parle. Ok, donc Luc chapitre 13, versets 10 à 17. La Bible dit, « Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Pardon. Verset 16. « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Baissons la tête pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous ouvrons ta parole ce matin, Seigneur. Je te prie de nous accorder ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie de nous accorder, Père éternel, de la sagesse et pleine compréhension de ce que tu as pour nous ce matin, Seigneur. Pour cela, tu m'as choisi moi, Seigneur. Alors je me remets entre tes mains totalement. Tu me connais, Père. Je te prie de me pardonner mes fautes, mes iniquités, mes péchés, Seigneur. Je te prie de me couvrir par le sang et le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Car ce matin, Seigneur, je parlerai en ton nom. Et tu sais, sans toi, je ne suis rien ni personne, Seigneur. Je ne suis que de la poussière, qu'un être humain perdu ici sur cette terre, Seigneur. Père, entre tes mains, je me remets. Et je te prie vivement, Seigneur, que tu me remplisses de ton Saint-Esprit et que je puisse parler en ton nom, Seigneur, pour ta gloire, selon ce que toi, tu me donneras de dire ici ce matin, Père éternel. Que je puisse être fidèle, Seigneur, à ce que tu as pour nous ce matin. Et que quelqu'un puisse sortir de ce lieu dire, « Le Seigneur m'a béni. » Et qu'ensemble, nous puissions dire, « Le Seigneur nous a bénis. » Au nom de Jésus, amen. Amen. Hier soir, j'ai appelé mon épouse en sortant d'ici et nous avons eu une discussion. Je vous ai dit que chaque sermon sera une expérience avec Jésus. Pour ceux qui étaient là hier soir, c'est pas ce que j'ai dit ? Alors, en voici la première. Et en discutant avec elle, nous sommes arrivés sur le bonheur. Waouh ! Quel grand mot, le bonheur. Alors, je lui ai demandé, « Michel, donne-moi une définition du bonheur. » Et elle m'a dit, « Ma définition du bonheur, c'est toi. » Ça a été sa réponse. J'étais assez surpris et je lui ai dit, « Ok, donc maintenant je ne vais plus entendre, « Oh, mais je vais entendre, oh. » Maintenant, moi je lui ai dit, « Si ta définition du bonheur est limitée à Wilfried Pavila, ça veut dire que ta conception de la chose est limitée. » Allez, « Oh. » Et dans la discussion, je lui ai expliqué que tu commets l'erreur de tout le monde. En général, lorsque les gens parlent du bonheur, ils font une espèce d'amalgame. Pour eux, le bonheur est associé à une émotion quelconque. Ça veut dire, et c'est ce que mon épouse disait, « Je suis avec toi, tu es l'homme qui me comble, je suis bien. J'ai cette sensation de bien-être, j'ai ce sourire que j'affiche le matin lorsque je me lève et que je pense à toi, parce que tu es celui que j'aime. » Mais le bonheur va beaucoup plus loin que ça. Saviez-vous que beaucoup d'encre a coulé juste pour trouver une définition à ce mot, bonheur, le saviez-vous? Beaucoup d'hommes, même de grands philosophes connus, ont parlé de cela. Certains l'ont limité, tel Nietzsche, à quoi? Au plaisir quelconque que nous prenons. D'autres ont vu dans le bonheur quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus, comment je pourrais dire ça? beaucoup plus tangible, quelque chose de, qui a beaucoup plus de sens. Wow, chapeau. Merci la technologie. Vous savez ce qui se passe là ? C'est déchargé. Donc je vous parle avec mon cœur ce matin. Donc, nous savons que tout le monde cherche le bonheur. D'ailleurs, lorsqu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que le bonheur, généralement il nous répond quelque chose qui a certainement à voir avec son ressenti du moment. Le bonheur se retrouve donc limité, comme je disais à mon épouse, à une émotion, à un homme, à une femme, ou à un ou deux trucs trouvés sur Internet ou dans un magazine, ou encore à un plaisir quelconque, pardon, partagé. Alors que ce mot bonheur se définit très clairement comme étant un état durable de plénitude. Comme étant quoi ? De plénitude, de satisfaction ou de sérénité. État agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Sommes-nous en phase ? Sommes-nous en phase, chers amis ? Ou encore êtes-vous en phase avec cette définition du bonheur ? Hein ? On continue. Donc, le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie. Il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. Et ça, c'est important pour moi. Un état d'équilibre qui dure comment ? Dans le temps. Donc, étymologiquement, ce mot vient d'un mot latin, un mot composé. Un mot composé issu du latin qui signifie « accroissement accordé par les dieux à une entreprise ». Wow. Accroissement accordé par les dieux à une entreprise. Et ce mot latin lui-même est issu d'un autre mot. Un mot ici défini comme indo-européen. Indo-européen. Et avec ce côté indo-européen, nous avons deux autres mots qui rentrent en action. Nous avons un premier qui est arctus, qui se définit par s'accroître. Et nous avons un autre, arctor, qui se définit par qui fait croître. Sommes-nous en phase ? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ? Donc, du point de vue de l'étymologie, le bonheur est l'aboutissement d'une construction qui ne saurait être confondue avec une joie passagère. Le fait que la création d'un auteur s'accroisse durablement provoque en lui-même l'accumulation de satisfactions. Et cette accumulation mène cette personne à ce que nous appelons le bonheur. Donc, en clair, ici il nous est dit que le bonheur est une construction. Donc, si ce qu'on entend par construction, c'est qu'il y a plusieurs choses qui compose cet état d'esprit qu'est le bonheur. Plusieurs choses la composent. Et ces différentes choses, chers amis, doivent s'accorder. Donc il y a un travail qui se fait, une construction, quelque chose, chers amis, qui sort de ces choses qui composent ce que nous appelons le bonheur. Et ça, c'est important de comprendre cela ce matin. Platon a dit, j'aime bien cet homme parce que je vais peut-être le confondre ce matin, « N'est-il pas vrai ? Nous autres hommes désirons tous être heureux. » Ça, c'est lui qui dit ça. Mais ce même Platon a écrit ou mis en avant quelque chose d'assez intéressant qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Jean-Charles, tu connais ça? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en deux temps, trois mouvements. Pour Platon, si vous prenez une pièce et que vous mettez un homme dans cette pièce, vous l'enchaînez et il ne voit que le mur qui est en face de lui. Et sur ce mur, vous avez des espèces d'ombres. D'accord ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Donc, la réalité pour ce bonhomme qui est enchaîné dans cette cave, qui a grandi dans cette cave et qui n'a vu que ce mur, la réalité se limite à cela pour ce bonhomme. Est-ce que nous sommes en phase ? Maintenant, ce même bonhomme, vous le libérez, vous le mettez à l'extérieur de cette pièce. Et là, il se rendra compte que tout ce qu'il voyait sur le mur n'était qu'une réflexion de ce qu'il y avait de l'autre côté. Sommes-nous en phase ? Donc à ce moment-là, il va comprendre qu'il n'avait qu'un reflet de ce qui était pour lui la réalité. Mais la réalité va prendre forme avec ce qu'il va voir de l'autre côté. Donc maintenant, suivez-moi bien. Est-ce que Platon est en train de dire que la réalité prend forme ou se définit selon la position ou l'endroit où nous nous trouvons, si on garde à l'idée cette cave, est-ce que la réalité se définit par rapport à notre position, par rapport à elle? Est-ce que la vérité dépend de la perspective que nous avons? C'est la question que j'aurais eue pour Platon. Donc, ça veut dire que Mr. Platon, qui a vécu à une époque où encore on croyait à cette vérité absolue, avec cette théorie de la cave, est en train de démonter ses théories de l'époque sur cette fameuse vérité absolue. Parce que si on en croit à cette histoire de caverne, si on se réfère à cette histoire de caverne, on comprend qu'on ne peut pas parler de vérité absolue. Est-ce que tu es avec moi, Sean? Puisque la vérité trouve son sens. Hein? Elle trouve son sens dans quoi? Dans la perspective que nous avons d'elle. Si je suis cet homme dans cette caverne, pour moi, la vérité, Jean-Charles, sera les ombres que j'ai sur le mur. Maintenant, lorsque je sors de cette caverne et que je réalise que ça n'est que le reflet de ça, donc cette réalité deviendra pour moi les ombres que j'ai sur le mur, mais aussi, chers amis, ce que j'ai de l'autre côté. Le reflet de ce qui est sur ce mur, sommes-nous en phase? Donc, maintenant, chers amis, devons-nous comprendre que, selon mon raisonnement, devons-nous comprendre que la réalité n'est pas limitée à l'humanité? Mais si la réalité n'est pas limitée à ce qu'un homme pense, puisque l'homme est limité, ça veut dire qu'il rentre en jeu un autre facteur. Et cet autre facteur, c'est qui? C'est qui? Dieu. Maintenant, si on considère cet autre facteur, Dieu, nous devons comprendre ce qu'est le bonheur ou comment Dieu lui-même définit le bonheur. Est-ce que nous sommes en phase? Maintenant, pour comprendre comment Dieu, lui, définit le bonheur ou la vision qu'il a du bonheur, j'aimerais illustrer cela avec cette petite histoire que nous venons de lire. Cette femme courbée. Cette femme qui avait cette maladie. Je m'avance un petit peu trop vite, puisque d'autres me diront, non, la Bible dit qu'elle était possédée. Ok, allons voir ce que la Bible nous dit. La Bible dit, si nous gardons à l'esprit que Luc n'était pas un apôtre du Seigneur, mais que Luc, c'était un homme qui a fait des recherches pour que nous ayons ce livre ce matin. Donc, le livre que vous lisez ce matin est le fruit d'une recherche faite par Dr. Luc. Il a fait sa recherche un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font leur master ici. Sam, tu as fini? Ok. Vous savez que lorsque vous soutenez un argument, lorsque vous avez un argument, vous devez le défendre. Et pour le défendre, vous devez citer, n'est-ce pas, Jean-Charles Ponfil? Par exemple, je vais dire, Jean-Charles Ponfil dit que dans tel livre, à tel endroit. Luc nous dit dans le chapitre 1, verset 3, qu'il a été voir ceux qui étaient avec Jésus à cette époque. Après avoir passé du temps avec eux, il a mené son enquête afin d'attester tout ce qui était dit à cette époque. Donc, Luc a fait une recherche. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est des choses qu'il rapporte. C'est le résultat d'une enquête qu'il a faite. Gardez cela à l'esprit lorsque vous lisez Luc dorénavant. Luc est ce qu'on appelle en anglais un research paper. Est-ce que nous sommes en phase? Et voici ce que Luc dit. Luc dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc si l'auteur nous dit le jour du sabbat, ça veut dire que nous devons garder à l'esprit que tout ça s'est produit un jour de sabbat. Très intéressant, parce qu'aujourd'hui, l'adventisme soutient cette idée du sabbat. Sommes-nous en phase? Nous sommes contents de venir adorer le Seigneur le jour du sabbat. Maintenant, suivez cette petite histoire et vous allez peut-être vous retrouver non pas à la bonne place. Ok, alors au verset 11, il dit, « Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alors, première chose, c'est Luc qui écrit. Je vous ai dit que Luc a mené son enquête pour avoir ce résultat. Alors, voici ce qu'il présente. Il dit dans un premier temps qu'il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc, on peut croire que Luc a été s'asseoir au pied d'un apôtre. Et dans cette discussion avec l'apôtre, je vais m'asseoir un petit peu comme lui. Et dans cette discussion avec l'apôtre, il lui dit, mais raconte-moi ce qui s'est passé. Et cet apôtre lui dira, mais mon cher ami, je me souviens qu'à un moment, il a rencontré une femme qu'un esprit possédait depuis déjà 18 ans et que cet esprit avait causé que cette femme soit malade durant ces 18 ans. Et à la place de Luc, je vais lui dire, mais encore, dis-moi, qu'a fait Jésus ? Et le bonhomme qui lui répond, tu sais, Jésus, lorsqu'il a intervenu, il lui a simplement dit, hey, sois délivré de ton infirmité. C'est l'une des premières ou seules fois où je vois ici dans la parole de Dieu Jésus qui vient délivrer quelqu'un et qu'il n'y ait pas de démon qui essaie de lui parler. Ah mais je te connais toi, tu es le Fils de Dieu. Ah mais je te connais, tu es celui, le Saint du Seigneur. Non, il n'y a aucun dialogue entre Jésus et aucun démon ici. Jésus vient et traite cette femme comme quelqu'un qui est malade. Maintenant, suivez-moi bien. Gardons à l'esprit que nous sommes à une époque où lorsque quelqu'un a une anomalie, ou présente une anomalie, pour nous qui sommes bien portants et qui allons adorer le Seigneur le jour du sabbat, chantons Sean avec la voix de Jean-Charles Bonfil, nous sommes contents, nous louons le Seigneur. Mais pour nous, ceux qui sont à l'extérieur, handicapés, ou qui ont un problème, sont des gens que Dieu a maudits. Nous sommes dans cette époque. Est-ce que nous sommes en phase? Je suis en train de vous dresser le profil psychologique de cette personne. Donc, voici une femme qui se sent rejetée à cause de son infirmité. Sommes-nous en phase? Elle se sent rejetée à cause de son infirmité. En plus d'être rejetée à cause de son infirmité, ils disent, elle est possédée. Ça fait 18 ans que je la connais, 18 ans que cette femme est possédée par un esprit. Et c'est pour ça que Dieu l'a rejetée. La preuve, vous ne voyez pas, elle est infirme. Sommes-nous en face, chers amis. Et tout le monde était d'accord avec cette idée. Mais maintenant, il y a autre chose que je considère lorsque je lis ce texte. La Bible dit que Jésus était où? Dans une des synagogues. Et pourtant, la Bible nous présente un contact entre Jésus et cette femme. J'ai un problème. Savez-vous comment ça se passe dans les synagogues? Les femmes ne sont pas avec les hommes. Et en général, les hommes sont là où le prédicateur est. Maintenant, si c'était Jésus qui prêchait, qui enseignait ce jour-là, ma question est, je ne sais pas comment était cette synagogue, mais comment il a fait pour voir cette femme? Vous n'avez pas posé cette question en lisant ce texte? Comment il a fait pour avoir ce contact avec cette femme? Et pourtant, le contact, il est bien là, car le rapport, nous l'avons ici. Docteur Luc, lorsqu'il écrit quelque chose, c'est quelque chose qu'il a vérifié deux ou trois fois. Donc, il n'y a pas d'erreur. Mais en tout cas, Jésus l'a vu. Et Jésus a eu un contact avec elle. Regardez-moi bien, chers amis. Jésus était parfaitement au courant de la situation de l'époque. Jésus savait parfaitement, chers amis, que, hey, ces gens pensent que cette femme, Dieu l'a maudit. Ces gens pensent que cette femme n'est même pas digne de rentrer dans cette synagogue. Ces gens-là pensent qu'ils sont meilleurs que cette femme. Et c'est pour ça qu'elle est dans cet état. Rejetée par sa propre nation, rejetée par sa propre famille. Certainement dans sa prière, elle devait pleurer et dire, mais Seigneur, pourquoi moi? En plus, ils disent que je suis possédé. Mais Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Vous ne vous êtes jamais retrouvé dans cet état? Je vous raconte un petit truc vite fait. Dieu m'a appelé au ministère. Lorsque je suis parti étudier, il a mis des choses en place. Et alors que je suis dans mon chemin, je suis là, chemin faisant, j'étudie, chers amis. Le nerf de la guerre à Trinidad, n'est-ce pas, Sam, c'est l'argent. Ah ben voilà, cours d'argent, plus rien. N'est-ce pas, Sam, à ce moment-là, on se rend compte qu'un campus adventiste est un campus comme tous les autres campus. Yep, no money, no love. Et lorsque vous allez au département des finances, il n'y a même pas un sourire. Il dresse déjà la chose pour vous, le mur est déjà là, et vous pouvez pleurer si vous voulez. Vous pouvez pleurer, n'est-ce pas, Sam? Puisqu'il était dans ce département, dans le coin. Vous pouvez pleurer si vous voulez. Vous pouvez vous rouler par terre comme les Martiniquais aiment bien faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, chers amis. Ça ne changera rien du tout. Vous avez un mur en face de vous, et lorsque vous aurez fini de pleurer, elle dira $20,000. Elle va vous donner un petit chiffon, mais hey, $20,000. Et si vous dites, bon, ben, fais quelque chose pour moi, d'accord, donne-moi 75% aujourd'hui. Mais vous n'avez pas cette somme. Et à ce moment-là, vous voyez, le regard change sur vous sur le campus, puisque votre nom n'est plus sur la liste. Et lorsque vous rentrez dans une classe, il vous faut signer une liste sur laquelle votre nom est. Et là, vous avez vos amis avec un grand A qui commencent à vous regarder comme si vous aviez la peste. Il y en avait même qui vont vous dire, sans aucune discrétion, « Hey, mais Wilfried, je ne vois pas ton nom sur le papier. » N'est-ce pas, Sam? « Je ne vois pas ton nom sur le papier. » Mais vous avez honte. J'ai vécu ça 4 ans. Je sais de quoi je parle. Donc, chers amis, vous imaginez cette chose. Cette femme était dans cette situation où elle avait honte. Tous les jours, à déambuler dans les rues parce qu'il faut qu'elle mange. En plus, elle ne travaille pas. Quand vous étiez handicapé, à cette époque, vous étiez rejeté, mais vraiment rejeté par tous. Donc vous imaginez cette femme, dans quelle situation morale elle était. Dieu m'a rejeté. Ma nation m'a rejeté. Ma famille me rejette. Je ne suis rien, ni personne. Parce que nous sommes en phase. Maintenant, suivez-moi bien. Jésus prêche. Mais qui attire son attention, où il se passe quelque chose? Je ne sais pas comment ça a pu se produire pour que ce contact ait lieu. Mais je peux imaginer le Seigneur en train de prêcher, mais son attention est sur cette femme. Celle qui est rejetée de tous, celle que personne ne veut voir. Mais celle aussi qui aurait aimé être heureuse, savoir ce que le bonheur chante. Mais elle n'avait d'autres perspectives des choses que ça. Ce qu'elle pouvait voir. Puisque lorsque nous avons une perspective, nous pouvons nous projeter. Je veux ça. Ça, c'est mon plan. Je vois la chose comme cela. Je veux aller dans ce sens. Mais là, vous avez une femme qui n'a d'autre chose que la poussière. En Martinique, il y a un homme, il est en vie jusqu'à présent, pour les Martiniquais qui sont dans la salle, et peut-être qu'ils le connaissent. Il y a un bonhomme qui marche comme ça. Alors, lorsque je l'ai vu, lorsque je venais d'accepter Jésus dans ma vie, il y a de cela quelques années. Lorsque je l'ai vu, je me suis demandé est-ce qu'il était possédé. Mais oui, parce que la Bible nous présente une dame qui avait ce même problème au niveau de la colonne vertébrale où les disques sont coincés là. Et je me suis dit, et puis il marche comme ça avec une espèce de bâton. Je me suis demandé, mais cet homme est possédé. Non, et j'ai réalisé, chers amis, que non, c'est une maladie qui est comme ça. C'est une maladie qui est comme ça. Ce bonhomme, comme cette femme de l'époque, comme un autre que je connais, avait un problème. Un problème physique, mais le problème était bien présent. Et ce problème avait d'autres répercussions dans sa vie. Aujourd'hui, personne ne dit à cet homme que je connais en Martinique, « Hey, Dieu t'a rejeté. » Personne ne lui dit ces choses. Donc, il n'est peut-être pas dans cet état moral, dans le même état moral que ce qu'était cette femme. Mais toujours est-il, il n'est pas à l'aise. Jean-Charles. Ouais, puisqu'il est comme ça. C'est le premier à prendre vos odeurs nauséabondes. Il marche comme ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, chers amis? Donc Jésus, lui, trouve un intérêt dans cette personne. Alléluia pour cela. Merci Seigneur pour Jésus, car ce matin, je vous présente quelqu'un, chers amis, qui trouve du plaisir à aider ceux que nous rejetons. Amen. Il prend plaisir en cela, à aller vers ceux qui sont rejetés, Amen. À aller vers ceux qui sont mis à part, à aller vers ceux qu'on voit comme, ok, laisse tomber. Jésus prend plaisir à passer du temps avec ces gens-là. Et voici, il se passe quelque chose à ce moment-là. Alors que cette femme était infirme. J'aime bien ce mot, infirme. Ce mot infirme, chers amis, j'ai fait ce qu'on appelle une étude du mot. Ce mot infirme. Ce mot vient d'un mot grec. Mais ce mot grec est très intéressant, chers amis. Parce que j'ai regardé son utilisation. En fait, ce mot grec revient 24 fois, Sean, dans le Nouveau Testament. 24 fois. Et j'ai regardé l'utilisation. Comment il l'utilise de versant à un autre. Et c'est là que ce mot grec devient intéressant. Parce que ici, on l'utilise comme étant infirme. Mais ce même mot grec veut dire aussi faible. Ce même mot grec veut dire aussi qu'on a besoin de certains encouragements, qu'on a besoin, chers amis, d'aller plus loin, une aide pour aller plus loin. Ce même mot grec implique, chers amis, non seulement quelque chose de physique, mais aussi moral. Cela implique le fait qu'on ne soit pas dans un état d'esprit où on peut accepter de subir les choses de la vie, subir ce qui nous arrive. En général, les gens qui sont autour de nous disent « il est faible » ou « elle est faible ». Sois plus fort, accepte la chose. Ce même mot grec, on la retrouve aussi, chers amis, dans ce que Paul, dans des écrits de Paul, où Paul parle, chers amis, de notre nature humaine. Lorsque Paul parle de cette chair qui est faible, et lorsque Paul parle de la chair qui est faible, Paul parle de la nature humaine. Cette nature humaine corrompue par le péché, chers amis. Cette nature humaine affaiblie à cause de nos choix. Le même mot se trouve ici, dans ce texte, pour parler de cette nature humaine. Donc on comprend que ce mot ici utilisé pour ce mot infirme implique une chose beaucoup plus profonde qu'une simple infirmité. En fait, avec ce mot, on se rend compte que cette femme était atteinte physiquement, mais aussi mentalement, mais aussi spirituellement. Donc on comprend que lorsque Dr. Luc place ce mot ici, il sait de quoi il parle. Maintenant, les hommes qui ont travaillé ont préféré mettre infirme. Parce qu'elle était réellement infirme, cette femme. La Bible le décrit bien, elle était courbée. Donc ils se sont dit, bon, on va le garder dans le contexte, on va mettre infirme. Mais en réalité, Luc, avec ce mot infirme, ne parle pas seulement d'une infirmité physique. Luc parle de cette infirmité qui veut que cette femme soit moralement atteinte. Cette infirmité, cette faiblesse qui veut que cette femme n'ait plus la force de supporter ce qu'elle supporte chaque jour. Donc, mentalement atteint, moralement par terre, spirituellement atteint. Luc veut qu'on comprenne que cette femme, dans toute la dimension humaine, était en difficulté. Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Et comment pouvons-nous imaginer qu'une personne dans cette situation puisse prétendre au bonheur? Lorsque vous allez rencontrer une personne comme celle-là et que vous lui parlerez du bonheur, chers amis, elle vous rira au nez. C'est une utopie. Cette chose n'existe pas. L'homme ne peut pas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Ou encore, c'est quelque chose d'éphémère. Mais voici que Jésus va nous démontrer que cette chose, chers amis, n'est pas une simple chose éphémère comme cela, n'est pas une chose qui se limite dans le temps, puisque on voit que Jésus vient et dans son rapport avec cette femme, chers amis, il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ce même mot réapparaît avec Jésus. Mais suivez-moi bien. Lorsque Jésus lui dit, « Tu es délivrée de ton infirmité. » Lorsque nous lisons le texte, on imagine cette femme simplement se redresser. Oui, physiquement, elle se redresse. Mais moralement, elle peut regarder Sean et lui dire, « Hey, où est celle qui était maudite par Dieu ?» Hein? Où est celle qui était maudite par Dieu? Maintenant, je te pose la question. On peut la voir spirituellement contente, heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu a exaucé sa prière. Est-ce que vous me suivez, chers amis? Et qui fait le miracle? Celui qui se présente comme étant, hein, le Fils de Dieu. Donc Dieu, chers amis, a intervenu ce jour-là dans la vie d'une femme et l'a guérie non seulement physiquement, mais aussi mentalement, moralement, mais aussi spirituellement. Cette femme a pu retrouver la force de regarder les gens dans les yeux, a pu retrouver le sourire comme la bien-aimée qui est à côté, a pu regarder les gens dans les yeux après ce moment-là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a croisé Jésus. Parce qu'elle a croisé Jésus. Et c'est ça qui est important. Nous devons comprendre ça ce matin. Maintenant, il y a autre chose que je veux soulever dans ce texte. Ensuite, la Bible dit au verset 13, « Il lui imposa les mains. » Très intéressant. Il fit quoi ? Il lui imposa les mains. Dans la nation juive, imposer les mains, ça a un sens profond. Premièrement, on faisait ça au roi. Lorsqu'on établissait un roi comme Salomon, David ou quelque chose comme ça, il était loin, mais on lui imposait les mains. Maintenant, Jésus vient. Ou encore. On imposait les mains aux prêtres. C'était quelque chose qui était réservé à qui ? Aux prêtres. Mais maintenant, suivez-moi bien. Jésus vient. Il impose les mains à quelqu'un que tout le monde rejette devant le prêtre. That's my Jesus. Devant le prêtre. Il vient et il lui impose les mains, mon ami. Il lui apporte cette guérison. Le prêtre est là. Voit Jésus imposer les mains à quelqu'un qui pour lui n'était autre que quelqu'un que Dieu avait maudit. Ce même Jésus qui dit être le Fils de Dieu va imposer les mains à quelqu'un que Dieu lui-même a maudit. Mais la chose la plus belle, c'est que cette personne retrouve une vie équilibrée. Est-ce que vous me suivez, chers amis? Cette même personne retrouve une vie équilibrée, retrouve un certain équilibre dans sa vie après cette imposition des mains. Fait devant des prêtres. J'imagine la confusion qu'il y a eu dans cette synagogue ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Êtes-vous avec moi? C'est une femme. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons les cicatrices on va être gentil avec les mots. On a encore des cicatrices aujourd'hui dans notre société de ce problème qui est la femme mise en avant dans les affaires humaines. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines sociétés, nous voyons mal des femmes présidents de la République ou des choses comme cela. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines sociétés, vous avez l'illégalité au niveau des salaires. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines sociétés, les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines sociétés, certaines femmes ne peuvent pas prêcher. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où des femmes ne peuvent pas, où il y a des femmes qui ne peuvent pas siéger? C'est une règle. Et à Trinidad, le plus beau que j'ai vu, c'est que lorsqu'une femme passait la porte et qu'elle allait s'asseoir, on lui amenait une espèce de couverture. Parce qu'il fallait qu'elle se couvre devant le Seigneur. Alors la question que j'ai eue pour la femme qui avait fait cela, la diaconesse, c'est « Excuse-moi, mais pourquoi moi je ne pourrais pas avoir une couverture ?» Et elle m'a regardé, elle m'a dit « You troublesome ». J'ai dit « Non, je suis sérieux. Pourquoi moi je ne pourrais pas avoir une couverture ?» Parce que lorsque je regarde cette femme, elle est couverte, elle est habillée de façon décente. Il n'y a rien qui fera que le pasteur, quand il va prêcher tout à l'heure, sera perturbé. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu lui donnes une couverture. Alors, donne-moi aussi une couverture. Lorsqu'elle a compris que j'étais sérieuse, la chose est devenue sérieuse. Et je crois que j'ai compris qu'il valait mieux que je parte. D'accord. Vous comprenez la chose? Jésus va à l'encontre de tout ce système établi par des hommes dans une synagogue à cette époque. On pourrait croire que Jésus, c'est le premier esprit postmoderne que nous n'ayons jamais connu. Nous avons des hommes comme Nietzsche qui parlent du postmodernisme. Nous avons beaucoup de gens qui, même des Français, je crois, Léotard, a parlé aussi du postmodernisme. Mais laissez-moi vous dire une chose. J'ai bien envie d'aller croiser ces grands philosophes, enfin ces hommes qui se disent philosophes, et leur dire, hey, vous savez que le premier postmodern man, ou l'esprit, le premier esprit postmoderne que j'ai rencontré, son nom c'est Jésus. Vous savez cela? Parce que c'est celui qui est venu et qui a bouleversé toute chose. Toute cette vérité absolue qui est le jour du sabbat. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça, on ne mange pas ci. Lui, lorsqu'il est venu, il a... Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais pourquoi on ne peut pas aller dans ce sens? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais encore pourquoi? Mais encore pourquoi? Mais pourquoi, Sean? Pour moi, le premier esprit postmoderne, c'était Jésus. C'était Jésus. A rien à voir avec tous ces grands philosophes modernes là qui racontent toutes leurs choses là. Et je suis gentil quand je dis choses. Donc, Jésus, en allant dans ce sens-là, pousse les gens qui sont autour à la réflexion, afin qu'ils se remettent en question et comprennent bien que, hey, il se passe quelque chose parmi nous. Quelque chose est en train de bouger. Quelque chose est en train de changer. Parce que lorsque ce prêtre vient et qu'il dit, hey, aujourd'hui c'est le sabbat, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vois ce bonhomme qui limite le bonheur à des actions. Je suis heureux dans le Seigneur parce que j'adore le jour du sabbat. Je suis heureux dans le Seigneur, je suis le premier à l'église, j'arrive à 8h30. Je suis heureux dans le Seigneur parce que je suis le dernier à laisser la pièce lorsque le prédicateur a fini. Je suis heureux dans le Seigneur parce que le mardi soir, je suis à l'église. Je suis heureux dans le Seigneur, je paye ma dîme, je paye mes offrandes. Je suis heureux dans le Seigneur. Dieu me bénit. Tu ne peux pas payer ta dîme? Oh. Oh. Il ne paye pas sa dîme, Dieu l'a maudit. Moi, je paye ma dîme, je donne des offrandes à la hauteur de ma dîme. Je suis quelqu'un, bien sûr, Dieu a sa main sur moi. J'ai une belle voiture garée à l'extérieur, Dieu a sa main sur moi. Je vis en zone pavillonnaire, ouf. Dieu a sa main sur moi. Toi, tu vis dans la cité. Avec tous les problèmes qu'il y a dans la cité. Moi, je suis en zone pavillonnaire. Dieu a sa main sur moi. Mes questions, vous êtes qui? Vous êtes qui devant Dieu pour vous dire que Dieu a sa main sur moi et pas sur elle? Et c'est ce que Jésus nous démontre ici. Parce que Jésus veut amener le bonheur dans un cœur. Pas quelque chose de limité ni d'éphémère. Quelque chose qui durera jusqu'à dans la vie éternelle, chers amis. Parce que lorsqu'une femme comme cette femme vit ce type d'expérience, lorsqu'elle donne sa vie à Jésus, elle sait ce qu'elle a fait. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait juste parce que le chant était bon. Oh, viens dans mon cœur, alléluia. Oh, oh, viens dans mon cœur. Oh, j'ai une émotion particulière là. Ouf, ce soir, je pourrais que aujourd'hui c'est le jour. Je vais donner ma vie à Jésus. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui vit une profonde expérience avec le Seigneur Jésus. Quelque chose de fort et de solide. Quelque chose qui va la bouger au plus profond d'elle-même. Quelque chose qui fera que, oh, quelque chose va naître là, à ce moment-là. Regardez bien, la Bible nous dit que la première action faite par cette femme n'est pas, oh, alléluia, je suis délivré. Non, ça a été de quoi? Glorifier Dieu. Rien n'était sur le moi, rien n'était sur le je, mais elle a fait que remettre Dieu à sa place, à la première place. Et ça me montre que cette conversion était profonde. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un qui est dans une émotion quelconque, quelque chose d'éphémère. Elle viendra 3 samedis et le 4e, on ne la voit plus. Lorsqu'on dira, pasteur, l'as-tu vu? Le pasteur vous répondra, elle a changé de numéro. Non, on parle de quelqu'un, chers amis, qui n'a pas besoin qu'une autre personne là lui rappelle, hey, tu viens à l'église samedi, hein? Non, on parle de quelqu'un qui à ce moment-là va s'enraciner dans le Seigneur. C'est de ça que nous parlons ici. Mais le fait ici de s'enraciner dans le Seigneur va lui apporter quelque chose. Ça va lui apporter quelque chose d'indescriptible. Quelque chose qu'elle-même ne pourra pas expliquer. Et j'ai eu la chance de vivre ça parce que je ne suis pas né chrétien. J'aurais le temps de vous parler de ça. Je ne suis pas né à l'église. Donc je vous dis une chose. Il y a de cela quelques années, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, le samedi, lorsque j'étais assis à l'église, j'étais comme ça. J'avais quelque chose qui se produisait au fond de moi et j'aimais ça. On était seulement lundi que je réfléchissais déjà. Oh, qui c'est qui va prêcher samedi? Oh, j'espère qu'on aura un bon sermon. Oh, j'espère que la louange sera parfaite. Oh, j'espère. Mon esprit était déjà sur sabbat. Parce que c'est le jour où j'allais rencontrer mon Dieu. C'est le jour où j'allais adorer mon Dieu. C'est le jour où j'allais élever son Saint-Nom. Ce n'est pas comme dans la semaine où je me réveille le matin, je lui donne 10 minutes bien serrées parce qu'il faut courir. Le soir, je suis fatigué, je lui donne 10 minutes bien appuyées parce que je vais m'endormir. Non, on parle d'une journée que lui-même a mis à part pour moi. Et nous sommes dans ce cas de figure ici, dans cette journée de joie. Et cette journée de joie, la Bible nous démontre ici que pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas la vivre. Parce que nous sommes comme ce grand prêtre. C'est le jour du sabbat. Il y a une façon de se tenir. Mon frère, tu ne peux pas mettre le bras sur le côté comme ça. Tu es à l'église, mon frère. Come on, man, come on. Mais mon frère, tu ne peux pas avoir ce casque sur la tête comme ça. C'est sabbat, tu ne peux pas croiser les jambes comme ça. Assieds-toi comme lui. Il est assis comme un homme qui adore le jour du sabbat. Oh ma sœur, tu aurais pu penser à mettre quelque chose de différent. Habille-toi comme moi. By the way, nous ne sommes plus en 1902. Hein. Je dis ça pour les sœurs. Ok. Donc, vous comprenez que, chers amis, Jésus est en train aussi de faire un point sur l'adoration dans le jour du sabbat. Il est en train de dire que, mais c'est le jour où nous pouvons faire du bien. Comment peux-tu aimer un animal plus qu'un homme? Puisque ce même jour-là, tu vas prendre ton animal, tu vas l'emmener là où l'herbe est bonne, parfum qu'il puisse manger. Et maintenant, un homme qui est dans la difficulté, tu dis, choisis un autre jour dans le jour de la semaine pour venir te faire guérir, mais ne viens pas ce jour-là. Mais c'est le jour par excellence pour la guérison. C'est le jour par excellence, chers amis, afin de faire du bien à son prochain. C'est le jour par excellence. Là où nous sommes en harmonie, en symbiose avec le Seigneur, chers amis. C'est le jour par excellence, mon ami. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Trouve un autre jour pour faire cela. Chers amis, nous sommes dans le sabbat, mais enchaînés par nos propres idées préconçues. Notre perspective est limitée dans notre humanité. Et Jésus, lui, nous invite à voir les choses différemment, comme il l'a fait pour cette femme qui n'avait que cette vision. Jésus l'invite à voir les choses sous un autre angle, chers amis. Jésus l'invite, chers amis, à pouvoir faire des plans. Jésus l'invite, chers amis, à s'organiser différemment. Jésus l'invite à le suivre. Jésus l'invite, chers amis. Comme ce matin, il vous dit, vous voulez être heureux, vous voulez du bonheur. Je vous invite à vous redresser. Je vous invite à voir les choses différemment. Je vous invite à les considérer différemment. Je vous invite à me considérer moi, premièrement. Je vous invite à glorifier votre Dieu. Je vous invite à vivez votre relation avec votre Dieu. Et Dieu pour perspective. Que Dieu soit dans vos plans. Glorifiez le nom du Seigneur alors qu'il vous guérit. Ce matin, Jésus t'offre une autre perspective. Jésus t'offre la possibilité de voir les choses différemment. Jésus t'offre la possibilité de le voir, lui, différemment. Jésus t'invite à sortir de ces sentiers battus. Jésus t'invite à raisonner comme lui. Jésus t'invite à sortir de la coutume. Jésus t'invite à sortir de cette culture et de l'adorer réellement, en esprit et en vérité. Que Dieu ne soit pas un concept. Que Dieu ne soit pas une idée sur laquelle vous philosophez, mais que Dieu soit réellement Dieu dans votre vie. Non pas le Dieu que vous criez, mais le Dieu qui existe bel et bien et qui règne sur les cieux et sur la terre. Donc Jésus, chers amis, est en train de nous dire ici à travers ce texte, tu cherches le bonheur. Mais le bonheur, tu ne pourras l'avoir qu'en moi. Mais pour le voir, tu dois voir les choses différemment. Tu dois accepter d'être ouvert. Tu dois avoir cet esprit critique. Cet esprit critique qui pose les bonnes questions. Cet esprit critique qui veut aller de l'avant. Cet esprit critique qui veut aller se rapprocher du Seigneur. Dieu ne veut pas des êtres qui fonctionnent dans le ne pas et le peu. Mais Dieu veut réellement des hommes qui raisonnent, des hommes qui réfléchissent et qui prennent des décisions consciemment. Non pas des hommes qui prennent des décisions sous le coup d'une émotion particulière, mais des hommes qui sont prêts à vivre une véritable relation avec lui. Des hommes qui sont prêts à l'expérimenter comme l'a fait cette femme. Êtes-vous prêts pour cela, chers amis? Êtes-vous prêts à laisser Jésus vous redresser? À laisser Jésus vous offrir une autre perspective des choses de la vie? À laisser Jésus avoir la première place dans votre vie? À le laisser vous guider? À le laisser vous diriger? Êtes-vous prêts, chers amis, à faire ce pas? Tous dans cette salle, nous le connaissons. Tous dans cette salle, nous savons de quoi il est capable. Mais maintenant, il nous invite, non pas juste à savoir ces choses, mais il nous invite à faire le pas et à le vivre. Parce que nous sommes en phase, chers amis. Donc ce matin, pour terminer, ce que le pasteur m'a dit hier, cher Pavila, nous finissons à midi. Pasteur, je te présente des excuses publiques, mais tu ne m'empêcheras pas de terminer. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire une chose. Ne voulez-vous pas être celui ou celle qui accepte que Jésus puisse lui permettre de voir les choses différemment? Ne voulez-vous pas être celui ou celle que Jésus guérit ce matin, spirituellement, physiquement, moralement? Ne voulez-vous pas être quelqu'un de différent en passant cette porte tout à l'heure? Parce que lorsque cette femme a passé la porte, c'était quelqu'un d'autre. Si c'est votre choix, pourquoi ne pas vous lever, chers amis? Pourquoi ne pas vous lever? Si c'est votre souhait, pourquoi ne pas vous lever? Mais maintenant, allons plus loin, Sean. Ne regarde pas le réveil, mon frère. Le réveil, ça va te rendre malade. Allons plus loin. J'ai envie d'aller plus loin avec vous. J'ai envie d'aller plus loin avec vous. Je sais que dans cette salle, il y a des gens qui veulent être heureux. Ils ont une vision de ce que le bonheur. Mais ce matin, acceptez que Jésus puisse vous dire « Hé, ta définition du bonheur trouve sa racine dans l'émotionnel. Mais je ne veux pas te donner quelque chose qui est basé simplement sur l'émotionnel. L'émotionnel n'est qu'une partie de la chose. Parce que ce que moi j'ai à t'offrir, c'est un bonheur qui sera au-dessus de tes souffrances. C'est quelque chose qui fera que lorsque tu seras dans la douleur, tu seras en paix. Quelque chose qui fera que lorsque tu seras dans la souffrance, tu seras en paix. Quelque chose qui fera que lorsque tu seras persécuté, tu seras en paix. Quelque chose qui fera que lorsque les choses n'iront pas dans ta vie, tu ne vois pas l'issue, mais tu seras en paix. Pourquoi? Parce que Jésus fait partie de tes plans. Est-ce que nous sommes en phase, chers amis? Il y a-t-il une personne ce matin qui aimerait dire « Seigneur, je suis dans la position de cette femme, malade, je me sens rejeté, ma vision est limitée. J'aimerais que ce matin tu puisses me guérir physiquement. J'aimerais que ce matin tu puisses étendre ma vision des choses, que tu puisses m'ouvrir sur le monde. J'aimerais que ce matin, Seigneur, tu m'enlèves cette sensation, cette espèce d'émotion triste que j'ai à l'intérieur, ce feeling, ce sentiment, Seigneur, que j'ai là. Ce matin, j'aimerais vivre cette expérience avec toi, car si tu l'as fait pour cette femme, tu es le même hier, aujourd'hui, et tu seras le même demain. Alors pourquoi ne pas le faire aujourd'hui pour moi? Pourquoi aujourd'hui ne pas s'approprier de cette expérience? Pourquoi aujourd'hui ne pas vivre cette nouvelle expérience avec le Seigneur? Par la foi. Par la foi, chers amis. J'ai une citation d'un homme qui s'appelle Spinoza. Spinoza, considéré comme l'un des pères de l'Église romaine, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, notre suprême félicité ou béatitude consiste dans la seule connaissance de Dieu. Dans la seule connaissance de Dieu, chers amis. Ce matin, Dieu s'ouvre à vous. Êtes-vous prêts ce matin à vous ouvrir à lui? Donc s'il y a une personne qui ce matin aimerait dire « Seigneur, je me sens comme cette femme. en ce moment, avec toute cette tristesse, tout ce rejet. Mais je veux éprouver la joie qu'elle a eue lorsqu'elle a glorifié ton Saint-Nom après que tu l'aies guéri. Si vous êtes cette personne, pourquoi ne pas venir jusqu'ici afin que nous puissions prier ensemble? Pourquoi ne pas venir jusqu'ici? Il y a de la place juste là. Il y a-t-il une personne qui aimerait faire le pas? Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Y a-t-il une autre personne qui aimerait faire le pas pour le Seigneur, afin de vivre cette expérience et de connaître enfin quelque chose de différent? Moi, j'ai la foi en ce que je vous annonce ce matin. Vous, avez-vous cette foi ce matin, cette foi qui vous guérira? Êtes-vous prêt à mettre cette foi en pratique ce matin? Si vous êtes prêt à mettre cette foi en pratique, pourquoi pas maintenant? Sortez des rangs et venez jusqu'ici. Le pasteur Darding fera cette prière de foi. Y a-t-il une autre personne? Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te mettre à côté d'elle? Je la sens un petit peu triste. Elle est en train de pleurer, en fait. S'il y a une chose que je peux te garantir, du peu d'expérience que j'ai avec le Seigneur, il y a quelques mois, j'étais comme toi. Tu vois les larmes que tu as là, et pasteur Darding, c'est de quoi je parle. Je ne comprenais pas ma vie, je ne voyais pas. Je me disais, après avoir passé tout ça de temps à étudier la parole du Seigneur, je suis toujours aussi perdu. Pasteur Darding m'appelait, on parlait longuement, Sean. Il essayait de me raisonner parce qu'il sentait que j'étais en train de partir. Parce que ma vision était limitée. Limitée à ce que je vivais au moment présent. Et parce que ma vision était limitée à ce moment présent, je ne voyais plus les bontés du Seigneur. Je me suis enfermé moi-même, emmuré moi-même. Et je me retrouvais dans ma chambre. Et je ne voyais que ce problème. Donc je me retrouvais à pleurer. J'avais envie de laisser tomber, de rentrer, de finir avec ça. Jusqu'au jour où, comme cette femme, j'ai vécu cette expérience avec Jésus. Ce même Jésus qui a redressé cette femme m'a redressé. Ce même Jésus qui lui a donné une nouvelle perspective, me l'a donné à moi aussi. S'il l'a fait pour moi et qu'aujourd'hui je sois devant vous à vous prêcher cet évangile, c'est parce que je crois qu'il peut le faire aussi pour vous. J'ai placé ma foi en lui et exactement comme il est écrit dans la parole, ma foi m'a guéri. Parce que j'ai placé ma foi en lui, je lui ai donné la possibilité d'intervenir dans ma vie. Y a-t-il une autre personne qui veuille lui donner cette possibilité? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier avec notre cher et tendre pasteur.
Prions ensemble. Ô tendre Père, chacun d'entre nous, nous pouvons dire que la douleur est vraie. Nos tristesses, nos dépressions, nos rejets, de se sentir mal aimé, nous l'avons passé. Nous avons fait ce passage. Nous avons subi les réactions, les paroles, les regards des uns et des autres. Parfois, tant de pères, nous sommes nos propres victimes. Notre horizon est sombre. Nous ne voyons aucune lumière, aucune issue de sortir. Mais Père, nous sommes heureux aujourd'hui. Heureux que Jésus est là. Heureux que Jésus est notre réponse. Et que nous pouvons nous compter sur lui. Compter sur lui. Ô Père, merci pour Jésus. Voici tes enfants debout devant toi. Père, il y a ceux qui ne sont pas venus devant, mais qui rencontrent la même expérience, la même souffrance. Il y a ceux qui sont dans des profondes souffrances. Et Père, ils crient aussi vers toi. Et comme tu les regardes, Père, là où ils se trouvent, tu les vois. Tu es prêt à le dire, femme, homme, jeune, enfant, tu es guéri de ton infirmité. Père, permette à chacun d'entre nous de le croire, de saisir par la foi cette vérité profonde de la capacité de Jésus à nous offrir une nouvelle perspective et que nous puissions agir selon notre croyance, agir selon notre foi. Redressons-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que notre vie soit pleine, remplie de paix, de joie et d'amour, et que désormais, nous pouvons regarder les uns les autres, nos familles, nos amis, nos ennemis, dans les yeux, et dire, je suis nouveau, nouvelle en Jésus-Christ. Bénis tes enfants en particulier, mon Père, qui ont fait le pas. Touche leur cœur dans les profondeurs. Transforme leur psychique, transforme les cellules de leur vision, donne-leur un cerveau qui a été touché par ta main. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec ta main puissante, touche les cellules de nos corps et que le nom de Jésus soit glorifié et que le monde voit que cette femme, cet homme, est une personne nouvelle parce qu'elle a rencontré Jésus et que le nom de Jésus soit loué, que son nom soit glorifié. Amen. 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 Alléluia.